Vous écoutez une rediffusion de l'émission Recto Verso avec Marie Chabot-Johnson sur les ondes de CKVL FM.
Bonjour à tous, vous écoutez Marcia Bédurenceau pour ce segment de Recto Verso. Aujourd'hui, je vous introduis à Liliana Pardo. Vous allez apprendre à la connaître en même temps que moi. Bonjour Liliana.
Bonjour Marcia.
Alors, je m'entretiens avec vous aujourd'hui pour parce que j'ai entendu quelques brèches de votre histoire par un contact commun qu'on a. Et quand j'ai entendu ces bouts-là de votre vie, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser là-dedans, que ça valait la peine que nos auditeurs entendent ce que j'ai entendu. Et moi-même, j'avais envie d'en savoir un peu plus, alors pourquoi pas faire une pierre deux coups, je me suis dit. Alors, d'abord, faut savoir que vous êtes d'origine colombienne. Vous vous êtes installée ici, au Québec, vers la fin 2009, donc ça fait presque 10 ans. Ça va faire 9 ans, en fait. Pouvez-vous m'expliquer et expliquer à nos auditeurs pourquoi vous avez décidé de faire un si gros changement dans votre vie en décidant de vous établir au Québec?
Nous avons décidé de quitter la Colombie pour des raisons et un peu pour la sécurité du pays. À l'époque, la Colombie était soumise dans une petite guerre intestine qui était là-bas depuis presque 50 ans. Donc, on voyait que de plus en plus, la situation devenait difficile dans plusieurs villes de notre pays. Et même si ma ville natale, Barranquilla, n'était pas trop touchée pour ces conflits, on les ressentait, on avait la peine pour les autres personnes qui habitaient les autres villes. Et on voyait que de plus en plus, c'était difficile en matière de sécurité, vivre et offrir aussi un peu de sécurité à nos enfants. Donc, en pensant justement dans l'avenir de nos enfants, nous avons décidé de commencer le processus pour venir ici.
Et c'est vous qui avez pris la décision de quitter. Là, la décision n'a pas été unanime au début. Là, le projet de quitter, c'était pas unanime dans votre famille.
Effectivement, c'est moi la plus enthousiaste parce que ma sœur. Son époux et ses enfants habitaient ici, donc ils nous ont envoyé un peu ses expériences, et ma belle-sœur aussi. Donc j'avais comme cette petite influence aussi, et je ne les cacherai pas, mais nous étions bien. On n'était pas touchés directement dans notre famille, dans notre entourage, par cette violence. Et nous avions de bons emplois, une belle qualité de vie sont acceptables et nous étions heureux en Colombie, très heureux. Et en même temps, j'avais toujours cette idée pour l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nos enfants vont avoir la même chance que nous? Et commencer à grandir, commencer à être plus autonome. Donc, j'ai commencé aussi à avoir un petit peu plus de peur que d'habitude. Donc, je me suis dit, je vais commencer à apprendre un peu le français et je vais voir comment ça se passe. Et c'est un processus qui était comme ça, tranquillement. Et effectivement, au début, mon mari n'était pas du tout intéressé. Il voulait rien savoir et il était bien, en fait, en Colombie. Mais finalement, à force de voir le processus avancer, et moi, je lui montrais les documents signés ici. Donc, il lisait, mais il ne croyait pas. Il disait, ça va finir pour tomber alors.
Puis, c'est ça, à partir du moment là, où vous êtes arrivé ici, le processus était terminé, votre mari y croyait. comment ça s'est passé? Parce que je sais qu'il y a eu plusieurs apprentissages à faire. Je ne veux pas, la Colombie de l'époque, en tout cas, c'est vraiment différent du Québec. Comment vous avez fait votre adaptation, en fait?
Une fois arrivé ici, c'est un choc. Je ne le cacherai pas. Parce que nous habitions dans une ville qui a une température 35 degrés en moyenne. Et mon mari a décidé que nous devions attendre que les enfants finissent l'école. C'est un calendrier qui finit dans le mois de novembre. C'est pas comme ici, donc ça suit vraiment l'année. Donc nous avons reçu notre acceptation pour venir ici, notre résidence permanente, environ le mois de septembre. Donc mon époux a dit on va attendre le mois de novembre que les enfants finissent pour bien fermer son cycle, pour qu'ils sentent que tout est complet. Après on va y aller. Mais moi je disais on va rester à Noël, on va rester avec la famille. Et il disait non, tu as pris la décision, on va y aller. Donc on a décidé de faire un couche de plus, arriver au début de l'hiver. Donc c'était vraiment difficile pour moi. Et je ne le cacherai pas, je pleurais presque tous les jours. Parce que c'était trop froid pour moi. Et mais en même temps, j'ai rencontré ma sœur, j'ai rencontré ma belle-sœur. C'était aussi comme des vacances pour moi, rencontrer tous ces gens qui on aime tellement. Et des amis que nous avons trouvés ici nous ont aidés tranquillement à apprendre comment ça fonctionnait. Mais effectivement, les changements, c'est très drastique, disons. Donc d'abord la température et deuxièmement la langue. Nous avons suivi un cours de français avec un de nos amis, Mariano, que je salue. Et lui, il nous avait appris le français. Mais lorsqu'on arrive, on ne comprend rien. Donc, je me sentais enfermée dans moi-même, parce que j'aime parler, mais je ne pouvais pas m'exprimer. Mm-hmm. Même acheter quelque chose à l'épicerie devenait un défi. Et si jamais la personne qui était à l'avant nous posait une question, c'était la peur qui s'installait tout de suite. Mais tranquillement, grâce à cette nouvelle famille qui a commencé à grandir ici, les choses se sont améliorées.
Ça vous a pris combien de temps avant de vraiment dire que vous étiez à l'aise pour parler en français, de comprendre ce que les gens vous disaient, puis de pouvoir dire tout ce que vous vouliez?
Nous avons inscrit dans une école à la commission scolaire Marguerite Bourgeois pour apprendre le français en attendant la francisation domique. Et donc, ça nous a pris quelques mois pour comprendre. C'était un petit peu... c'est arrivé un petit peu plus rapide. Le français est quand même une langue romance comme les nôtres. Donc, il y a beaucoup de transparence. Mm-hmm. Il y a beaucoup de mots. Donc, on arrivait à prendre l'idée. Mais c'était à communiquer qui était plus difficile pour moi. Donc, je dirais qu'après 6 mois, au moins, on était capable de parler un petit peu plus. Et on a débuté le processus de la francisation. Et ça s'enchaînait de façon très rapide. Donc, on a fait la francisation et ça nous a aidé. Vraiment, le système est bien fait parce que ça nous a aidé, ça nous a obligé à parler en français. Et mon mari a trouvé aussi une formation au CGV André Lorenzo, donc il faisait les deux choses. Mm-hmm. C'était pas facile, mais on arrivait quand même.
Vous avez parlé de vos enfants. Comment ça s'est passé pour eux? Pas nécessairement seulement au niveau de la langue, mais une fois ici, là, comment ils se sentaient par rapport à leur nouvelle vie?
Pour les enfants, c'est plus facile. Je dirais, s'ils sont plus petits, plus facile que c'est pour eux l'adaptation. Mes enfants ont un écart de 5 ans entre les deux. Donc, André avait 5 ans lorsque nous sommes arrivés. Et pour elle, était vraiment, vraiment plus rapide l'adaptation. Pour les autres, retrouver ses cousins et sa cousine, c'était comme vraiment quelque chose de naturel. Donc, tranquillement, ils se sont adaptés. Pour les garçons, ça a pris un petit peu plus de temps. De toute façon, il avait 10 ans. Il avait déjà laissé ses amis. Ça, c'était un petit peu plus dur pour lui. Mais les enfants apprennent tellement vite. Pas seulement la langue, mais aussi la façon de fonctionner. Parce que c'est pas, comme tu le disais, c'est pas seulement la langue. C'est aussi la culture, c'est aussi la façon, l'organisation de la société comme telle, la façon de penser, même la logique n'est pas toujours logique partout dans le monde. Ça prend des petits bémols. Donc, on apprenait tranquillement et les enfants étaient comme des éponges, vraiment, qui nous aidons. Nous avons aidé vraiment à traverser cette étape. Pour moi, c'était ma force, mes enfants.
Et là, c'est ça. Aujourd'hui, on peut dire qu'autant vos enfants que vous, que votre mari, que votre vie est ici, là, une vie professionnelle aussi. Et c'est un des sujets que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Donc, toute la question du travail en tant qu'immigrante, si on se concentre sur votre cas. Parce qu'il faut savoir qu'en Colombie, vous étiez architecte et ici, vous êtes technicienne en architecture. Est-ce que vous étiez au courant de cette réalité-là en venant ici?
Pas tout à fait. En fait, lorsque le Québec lance les invitations aux personnes qui décident venir en tant que travailleur qualifié, on a l'idée qu'on va pouvoir travailler. C'est vrai, je suis contente pour les démarches que nous avons faites, mais je n'étais pas au courant au détail. Ça prenait vraiment beaucoup de temps. Et c'est pas que ce n'est pas possible de travailler en tant qu'architecte, sauf que ça prend des démarches et avec des enfants et une famille à bâtir. Nous arrivions ici avec deux valises. C'est pas évident qu'est-ce qu'on fait en premier. Donc, nous avons placé nos priorités, disons, et la langue, et nous trouver une maison, nous trouver, connaître vraiment la culture. Et nous, je pense qu'une chose qui nous a aidé à bien nous insérer au marché du travail, c'était le même système. En fait, nous avons eu la chance de connaître une excellente agent d'emploi, Madame Lavigne, qui nous avait donné de bons conseils. Comment aborder notre profession, comment aborder les marchés laboraux, comment comprendre le fonctionnement de la recherche d'un emploi et connaître aussi nos forces et nos faiblesses, étant une faiblesse la langue, si nous voulions travailler en tant que travailleurs qualifiés, comme c'était le cas au début, et il fallait améliorer certaines compétences, mais aussi nous a aidé à comprendre que nous avions des compétences qui étaient transférables à différentes étapes de ce processus. Donc, même si on n'arrivait pas à travailler tout de suite en tant qu'architecte, nous avons pris, par exemple, la peine d'apprendre mieux le français, même si aujourd'hui il n'est pas parfait, d'améliorer nos français, de faire une mise à jour dans nos connaissances en architecture, comme je te disais au début. La température et le climat, c'est une chose qui joue fort dans le comportement des matériaux, par exemple, dans notre domaine. Et donc, et voilà, ça nous a aidé vraiment beaucoup, les conseils de notre agent d'emploi et aussi les conseils de toutes ces personnes qui sont avant, parce qu'ils sont, ils ont vécu déjà plusieurs choses. Donc, ça nous évite aussi de répéter certaines erreurs qu'on fait toujours, mais ces connaissances des autres personnes qui sont venues avant nous ont aidés vraiment. Et je suis contente quand même, parce que nous avons eu la patience, disons, de prendre chaque étape et d'être consciente. Je pense que pour les personnes qui viennent d'arriver, ça serait bon qu'ils croient vraiment que ces compétences ne sont pas perdues, qu'un jour, ils vont pouvoir les mettre en valeur. Mais avoir la patience et de suivre bien les étapes, de ne pas les sauter parce que sinon on commence à laisser des vides trop grands. Et l'une, c'est améliorer un peu la langue et améliorer aussi notre façon de voir les marchés laboraux. J'ai eu la chance pendant que j'ai fait mes études au CGM André Lorendo, c'est un mise à jour en architecture et construction des bâtiments. Et j'ai trouvé un petit emploi au centre-ville. C'était mon premier emploi, et c'était qu'une journée dans une boutique. Et mon époux me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Mais j'ai dit, mais je vais entendre le monde parler, parce que dans mon entourage, on parlait beaucoup espagnol. Je vais comprendre, je vais voir comment fonctionne Montréal, je vais prendre l'autobus, je vais prendre le métro, et je vais commencer à apprivoiser un peu la ville pour voir, connaître la société ailleurs que dans les cours. Et tout à coup, j'ai arrivé à avoir un emploi au service des gares à l'école Antoine Girouard. Et c'était aussi un milieu de travail exceptionnel. J'adorais beaucoup les échanges. Donc, ça m'a permis tranquillement d'avoir d'autres compétences, de comprendre aussi le milieu de l'éducation. Et aujourd'hui, je travaille pour une commission scolaire. J'ai travaillé aussi pour d'autres commissions scolaires. La commission scolaire de Sorel Tracy et la commission scolaire de Saint-Jacinthe en même temps. C'est des équipes différentes, mais qui avaient les mêmes objectifs, comme aujourd'hui à la commission scolaire des Grandes Seigneuries. Et c'est prendre soin de nos enfants, prendre soin de cette nouvelle génération. Donc, j'ai trouvé, parmi ces équipes, beaucoup de bonnes choses à prendre et qui ont resté toujours avec moi. C'est des équipes différentes, mais c'est des équipes merveilleuses. Tout le temps, des gens prêts à travailler, prêts à t'aider, prêts à entreprendre de bonnes choses, et juste en suivant leur exemple, je pense que ça fait un plus aussi dans notre apprentissage.
Vous avez parlé de démarches que certaines personnes pourraient faire si, par exemple, quelqu'un qui était architecte en Colombie voudrait encore être architecte. Vous avez choisi vos combats en commençant par la langue. Si vous aviez décidé d'être architecte au Québec, c'est quoi les démarches à faire, à prendre?
Bon, d'abord, c'était la langue, peut-être la première et deuxième année, et la mise à jour aussi, l'insertion au marché du travail qui s'est bien passée. Nous avons eu la chance aussi d'acheter une maison trois années après notre arrivée, mais on l'a payée encore, on ne s'est pas complètement payé, à différence de celle que nous avions en Colombie. Donc les enfants ont pris vraiment beaucoup de place, ils les prennent encore toujours, ça c'est comme notre objectif premier, c'est que les enfants soient vraiment bien. Donc, présentement, ils sont un petit peu plus grands et nous avons réussi à avoir une stabilité au travail. Donc, mon époux, par exemple, vient de commencer cette démarche. Donc, ça prend la traduction de nos documents qui sont dans une langue étrangère, l'espagnol. Et ça prend l'acceptation dans l'ordre d'architecte. Donc, lui, il doit d'abord faire appel au conseil d'architecture pour les équivalences. Et par la suite, soit qu'il décide valider toute son expérience. C'est un programme qui s'appelle justement comme ça, des personnes ayant une vaste expérience. Donc, il va falloir qu'ils remplissent beaucoup d'informations dans les documents que l'ordre, justement, demande pour prouver qu'il a ses connaissances, qu'il a vraiment l'expérience et la formation suffisante pour être admis à l'ordre d'architecte. Et sinon, on fait encore une fois les équivalences pour voir si les matières que nous avons étudiées sont toujours comparables à celles que le Canada demande. Et ils vont nous demander peut-être de compléter certains. On ne le sait pas encore, mais j'ai des collègues qui viennent de la Colombie qui n'ont pas eu besoin de faire d'autres cours. Et par la suite, il faut que la personne travaille dans son bureau d'architecture pour vraiment pouvoir mettre en application. C'est comme un stage. Ça prend peut-être un an ou deux faire les stages. Mais il faut absolument qu'il soit dans son bureau d'architecture. Donc, ça a des coûts associés à chaque examen. Ça a des coûts associés aussi à l'étude de ton dossier. Et dans le cas de mon époux, il est prêt à avancer dans ce sens. Moi, pour le moment, je suis très content dans le travail que j'ai fait présentement. Ça me permet vraiment de mettre en valeur et de mettre en application les choses que j'ai apprises en Colombie, les choses que j'ai appris ici et les choses que je continue à apprendre. C'est vraiment un travail très agréable, entouré aussi de personnes très agréables qui ont le goût de servir, qui ont le goût vraiment de prendre soin de les élèves. En fin de compte, c'est la raison d'être des ressources matérielles. En fait, c'est le confort des autres personnes. Et j'ai eu la chance de trouver un stage dans une compagnie à Saint-Lambert qui s'appelle Groupe Archifin. Et c'était vraiment mon premier emploi dans le domaine de l'architecture. Et c'est important pour nous, en tant que nouveaux arrivants, de savoir que le gouvernement aussi nous donne la possibilité d'avoir une carte prime pour bien avoir un bon départ dans ton domaine. Donc, Archifin, c'était vraiment comme une grande famille. C'était un bureau d'environ 12 personnes. Mais ces personnes aussi venaient de différentes nationalités. Donc, M. Franck Magrave, le propriétaire et son épouse, vraiment nous ont appris à apprécier le travail au Québec. Ils sont vraiment tout le temps, ont été vraiment respectueux, accueillants. Nous ont appris vraiment à apprendre comment travailler au Québec. Donc, pour moi, cette première expérience dans mon domaine m'a permis de garder espoir.
Mais écoutez, merci beaucoup, Liliana Pardo, d'avoir pris le temps de discuter de tout ça avec moi aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une belle continuité, autant pour vous, pour votre conjoint, vos enfants. Merci beaucoup.
Merci à toi, Marcia, de l'invitation. Et merci aussi aux chers auditeurs.